Vous écoutez
RMC.
Il est 8h tout pile. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'Europe à la une ce matin. Les Européens qui attendent de pied ferme Donald Trump à Davos en Suisse au Forum économique. Le bras de fer se durcit sur le Groenland. Emmanuel Macron demande ce matin un exercice militaire de l'OTAN. Le vote de la dernière chance aujourd'hui au Parlement européen de Strasbourg. Dernière cartouche pour mettre un coup de frein à l'accord avec le Mercosur. Et puis Marseille contre Liverpool ce soir en Ligue des champions de football au lendemain des défaites de Paris et de Monaco.
La petite station suisse de Davos sera le centre du monde aujourd'hui.
Oui, Donald Trump est attendu là-bas. Ce sera à la mi-journée où se tient depuis hier le Forum économique mondial. Et il aura sans doute un petit peu de retard d'ailleurs, Donald Trump, puisque son avion a dû faire demi-tour cette nuit pour un problème technique peu de temps après son décollage aux États-Unis. Il va débarquer là-bas en Suisse dans un contexte de bras de fer avec les Européens. On parle carrément d'un risque d'explosion de l'OTAN à cause de ses velléités sur le Groenland. Il en a remis une couche hier soir, entretenant le flou comme il le fait tout le temps. Écoutez.
Nous allons faire en sorte que l'OTAN soit contente et que nous soyons très contents. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et vous allez voir jusqu'où je peux aller pour l'acquérir.
Alors Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, en direct ce matin, on assiste à un changement de ton de la part des Européens qui ont l'air décidés à répondre à Donald Trump, à engager le bras de fer. Ce matin, c'est Emmanuel Macron qui demande un exercice de l'OTAN au Groenland auquel la France participerait.
Oui, alors il y avait déjà une quinzaine de chasseurs alpins envoyés par la France il y a quelques jours pour une opération avec l'armée danoise. Cette fois, ce que propose Emmanuel Macron, c'est un exercice militaire au sein de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, dont les États-Unis sont aussi membres. Une mission destinée à assurer la sécurité dans la région. En fait, entre les lignes, le message envoyé à Donald Trump, c'est que les Européens ne négligent pas cet aspect sécuritaire dont le président américain parle beaucoup. Vous l'avez entendu, il dit avoir besoin du Groenland précisément pour des raisons de sécurité, évoquant les menaces russes et chinoises. Alors Emmanuel Macron propose de se saisir du sujet et de le régler au sein même de l'OTAN. Voilà pour la manière douce. Quant à la manière forte, bien elle est toujours sur la table. Le Parlement européen a suspendu hier la ratification de l'accord commercial signé l'été dernier avec les États-Unis. Ce message est un avertissement, a prévenu le ministre français des Affaires étrangères hier soir. Les chefs d'État européens ont rendez-vous demain soir à Bruxelles pour envisager des mesures de rétorsion plus fortes sur les produits américains, avec au menu le fameux bazooka, ce dispositif anti-coercition évoqué par Emmanuel Macron.
Alors il y a un sujet sur lequel les Européens sont divisés, c'est le traité avec les pays du Mercosur. Il a été ratifié à Bruxelles il y a maintenant 10 jours. Mais ça se joue désormais à Strasbourg. Au Parlement européen, il va y avoir le vote de la dernière chance aujourd'hui. Au Parlement européen, les députés européens vont décider ou pas de saisir ce qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne dans le dossier du Mercosur. Ça aurait pour effet en fait de mettre sur pause cet accord. Cyprien Pézeril, vous êtes ce matin en direct pour RMC devant le Parlement européen. On sait que les Européens sont divisés et que ça va se jouer à quelques voix près.
Oui, à 8 petites voix près, pronostiquent plusieurs élus. Pas de surprise côté français, ils devraient tous voter pour saisir la justice, du RN Jordan Bardella à l'insoumise Manon Aubry, en passant par les macronistes. Mais pour faire basculer le vote, jusqu'à la dernière minute, les Français cherchent à convaincre leurs collègues étrangers, quelle que soit leur étiquette politique. Si la justice est saisie, elle vérifiera que le Mercosur respecte les traités. Et pendant ce temps, la signature finale sera reportée de plusieurs mois. Même si la Commission européenne pourrait tenter ce que certains appellent déjà un passage en force, et malgré tout appliquer provisoirement l'accord. Pour faire pression, environ 400 agriculteurs, essentiellement français, sont restés toute la nuit à dormir assis dans leur tracteur moteur allumé pour résister au froid, comme Jérôme, éleveur bovin venu de Nancy, avec l'espoir de mettre un coup d'arrêt au Mercosur.
D'où on joue un peu notre avenir aujourd'hui, en espérant que le veau du Mercosur soit censuré et puis que tout se passe bien, quoi. Qu'ils se mettent de notre côté maintenant, que ce soit de n'importe quel bord politique.
Il prévoit de repartir à l'issue du vote à la mi-journée.
Voilà, Cyprien Pézeril, en direct du Parlement européen de Strasbourg ce matin pour RMC. Tiens, puisqu'on parle du Parlement européen, deuxième journée d'audition pour Marine Le Pen aujourd'hui au procès en appel à Paris, de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Elle a déjà été auditionnée toute la journée d'hier et a répété qu'elle n'avait rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. La campagne des municipales à Paris, ça se passera sur RMC ce matin. Je vous signale que la candidate de la droite, Rachida Dati, toujours ministre d'ailleurs, sera l'invitée des Grandes Gueules ce matin à 11h.
Il est 8h04 et on vous dévoile ce matin le nouveau rapport du Haut Conseil à l'égalité. Rapport qui identifie une nouvelle forme de sexisme.
Oui, sexisme, disons, plus radical pour 17% de la population, mesuré pour la première fois par des chercheurs du CNRS. Un sexisme, en fait, redoutant que la femme prenne le pouvoir sur l'homme. C'est ça, Louis Salé?
Plus d'un tiers des hommes et même un quart des femmes estiment par exemple que le féminisme menace la place des hommes dans la société, comme ces deux jeunes hommes qui trouvent que les avancées des droits des femmes ont eu des conséquences néfastes.
Maintenant, on entend beaucoup moins les hommes. Et vu qu'on est dans une période où les femmes elles sont prises en compte, quoi, et elles peuvent mentir et du coup les hommes peuvent se sentir menacés parce qu'ils sont accusés à tort, des choses comme ça.
La parole d'une femme, elle porte plus que la parole d'un homme face à la justice. Par exemple, s'il s'agit des violences conjugales, des choses comme ça, si c'est une femme qui en parle, on a automatiquement du soutien. Mais quand c'est un homme, non, on le prend pour un comédien, quoi.
Des propos radicaux qui, quand ils se généralisent, relèvent d'un sexisme que l'étude qualifie d'hostile. Il concerne 10 millions de Français, selon Pascal Huguet, chercheur au CNRS, qui a dirigé cette enquête. Il décrit leur profil.
Les gens dont on parle assument une orientation religieuse, quelle qu'elle soit. La tendance lourde, c'est droite, extrême droite et opinions politiques et notamment dans les catégories socio-professionnelles les plus précaires.
Et ce genre de sexisme alimenté par les réseaux sociaux peut enfermer dans une idéologie masculiniste qui appelle à la violence envers les femmes.
Nouvelle audition en Suisse pour les gérants français du bar de Cromontana, incendié la nuit du Nouvel An. Audition qui porte sur les faits cette fois. Jacques Moretti, le gérant, a été interrogé pendant 10 heures hier. Il ne s'est pas dérobé, assure son avocat. Ce sera au tour de son épouse Jessica Moretti aujourd'hui. C'est la pluie qui serait à l'origine du nouvel accident de train qui a fait un mort et 4 blessés hier soir en Catalogne. Un train de banlieue qui a percuté un mur tombé sur les voies 2 jours seulement après la terrible collision qui a fait au moins 42 morts selon le dernier bilan en Andalousie. Il y a la plus grande centrale nucléaire du monde qui va redémarrer aujourd'hui au Japon pour la première fois depuis la catastrophe de Fukushima. Souvenez-vous, en 2011, elle était à l'arrêt depuis et une majorité de Japonais sont d'ailleurs opposés à son redémarrage. Le foot, c'est une grande affiche qui attend Marseille ce soir en Ligue des Champions. On la vivra sur RMC. Une affiche comme on les aime, Florent Germain, pour l'OM qui va recevoir Liverpool, donc une des plus grandes équipes d'Europe.
Oui, l'OM ne doit pas rougir devant les Reds de Liverpool. Les supporters marseillais y croient. Tony a en tout cas traversé la France pour vivre cette soirée européenne.
Ah, c'est un super match, c'est une affiche mythique. Marseille-Liverpool, c'est les supporters anglais, supporters marseillais ensemble. C'est à faire. On craint des gains et Liverpool, on va les avoir. On va les plier, les Anglais.
Ambiance chaude et adversaire prestigieux qui compte à son actif 6 Ligues des Champions. Le milieu de terrain Pierre-Emile Højbjerg espère que l'OM sera au rendez-vous.
Deux clubs extraordinaires, de la passion, de l'histoire. Un stade extraordinaire et j'espère aussi que tout le monde avec le maillot et le sang marseillais partira aussi avec un sourire.
En cas de victoire, Marseille sera au minimum qualifié pour les barrages. Raison de plus pour se lâcher, annonce l'entraîneur Roberto De Zerbi.
On doit jouer avec de l'envie, de la passion et faire honneur à ce vélodrome qui sera plein pour recevoir un grand Europe. On y croit car on a montré contre le PSG ou le Real Madrid qu'on peut être au niveau des meilleures équipes. Je ne sais pas si on va perdre ou gagner, mais on est capable de battre n'importe qui.
Le vélodrome qui a préparé quelques tifo grandiose s'annonce bouillant et à guichet fermé, avec également 3300 supporters anglais en tribune.
Ce soir à 21h donc sur RMC et au lendemain des défaites de Paris et de Monaco dans cette Ligue des Champions. Monaco corrigé littéralement 6 buts à 1 chez le Real hier soir et Paris battu 2-1 dans les toutes dernières minutes chez le Sporting Lisbonne. Les Parisiens qui n'auront pas le droit de se louper la semaine prochaine pour la dernière journée contre Newcastle s'ils veulent se qualifier directement en 8e de finale.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Pierre Rondeau, il n'y a jamais eu autant de touristes dans le monde, c'est ce qu'affirme un rapport de l'ONU paru hier.
Oui Apolline, il y a eu en 2025 1,5 milliard de touristes à travers le globe, autrement dit une personne sur 8 sur la planète a voyagé l'année dernière, un record absolu en augmentation de 4% par rapport à 2024 et même de 6% par rapport à 2019. Avant le Covid-19, la pandémie semble très loin derrière nous. Et au total, le secteur touristique a généré 11 700 milliards d'euros de dépenses. Une activité en très bonne santé, donc.
Et la France s'en tire très bien.
Eh bien, évidemment, la France est la première destination touristique du monde. Elle s'en sort toujours aussi bien. Notre pays a accueilli 105 millions de touristes internationaux en 2025 et produit un chiffre d'affaires de 94 milliards d'euros. Mais la France reste talonnée par l'Espagne et l'Italie. Ces deux principaux concurrents qui connaissent eux aussi des résultats à la hausse. Globalement, selon le rapport de l'ONU, le continent européen européen et la principale destination touristique au monde, avec 793 millions d'arrivées enregistrées. Enfin, en dehors de l'Europe, deux pays se démarquent, le Maroc avec une augmentation de 14% et le Brésil, première destination d'Amérique du Sud, avec une croissance touristique de 37%.
Et alors les États-Unis, est-ce que la présidence de Donald Trump a eu une incidence sur le secteur touristique aux États-Unis ?
Oui, c'est l'un des points forts du rapport. L'activité américaine a connu une très forte baisse depuis 2024, l'élection de Donald Trump, sa présidence, ses coups d'éclat, ses déclarations contre ses principaux partenaires, tout cela a produit une forme de boycott ou un refus de voyager outre-Atlantique. Rajoutez à cela le renforcement des critères d'accueil, avec notamment, rappelez-vous, l'accès à l'historique à partir du mois de février, à l'historique de vos réseaux sociaux, et les difficultés d'obtention de visa. On se bouscule de moins en moins à la douane américaine. La baisse touristique enregistrée est de 6% entre 2024 et 2025, et cela devrait profiter aux autres destinations. L'ONU anticipe en effet que 2026 sera aussi une très bonne année touristique, avec une envie de voyage et de découverte qui restera inchangée.
Merci Pierre Rigaud. Il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'ancien commissaire européen, persona non grata justement sur le sol américain, Thierry Breton. Juste après ça, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup tous les matins sur RMC à 8h50. On se retrouve dans un instant, il est 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Arnaud,
bonjour.
Prenez votre temps.
Oui,
vous êtes bien installé, tout va bien.
Je vais m'installer tranquillement.
Un petit café, un petit thé.
Un petit croissant. Oh, écoutez, c'est tellement gentil.
Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous les amis. Non, alors on est un peu distrait. En plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, au niveau international, Trump qui veut envahir le Groenland, Macron qui fait des discours à Davos avec les lunettes de Maître Gims.
Non, Donald, tu n'auras pas l'Europe.
On oublie un peu la politique française. Et pourtant, hier, on a eu notre premier 49-3 de l'année. Bonne année. Ah, ça nous a rappelé des souvenirs. Le 49-3, c'est tellement rétro. C'est le tube des années Born. C'est le tube des années Valls. C'est vintage pour une matinale.
Merci Patrick Roy. Tout de suite, l'actualité avec Roger Texer et Gaston Vinet.
Et oui Jean-Pierre, bienvenue sur Radio Monte Carlo. Le gouvernement français qui a actionné le 49 alinéa 3, c'est comme à Monaco, on s'emmerde pas avec les votes. Et tout de suite, musique sur Radio Monte Carlo. C'est sérénissime. Ah, c'est vintage. Par contre, conséquence tragique à tout ça, adieu Olivier Faure.
Oh là là là.
Petit ange parti trop tôt. Maintenant que le dossier est bouclé, qu'il ne peut plus peser sur les décisions du Premier ministre, c'est fini. Adieu la hype du PS. Bye bye Olivier. Il a rejoint son charisme au paradis des socialistes, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement. Non, franchement, pour eux, c'est moche, parce que personne n'en avait rien à foutre de leur avis. Et puis là, Sébastien Lecornu les draguait, les voulait, c'était fashion. Mais bon, les socialistes, c'est un peu comme les laboubous ou la tectonique. C'était une mode éphémère. Tenez, même vous, vous avez craqué, Apolline. Vous l'avez beaucoup reçu, Olivier Faure. C'était pas pour le plaisir, on va pas se mentir. C'est parce qu'il fallait suivre la tendance PS. Mais bon, dans 2 ans, quand vous reverrez des photos de vous en train de l'interviewer, vous direz on était quand même un peu ridicule à l'époque. Quand on regarde des photos de nous des années 2000, on a un sac banane, un t-shirt Fido Dido, une casquette Von Dutch de travers, et on est là, oh, on était con quand même en 2026. On écoutait Olivier Faure, on se demandait si François Hollande se représenterait. Et puis voilà, il y a eu la Troisième Guerre mondiale et puis tout ça s'est terminé.
Arnaud, l'ambassadeur d'Iran en France est très présent sur les plateaux pour défendre le régime des Mollahs.
Oui, il s'appelle Mohamed Amin Nejad et il répète en boucle « Le régime n'a pas de sang sur les mains ». Pour lui, les victimes, ce sont les forces de l'ordre et pas les émeutiers. C'est du bullshit. Merci. Cet excellent jeu de mots, d'ailleurs, a reçu l'ours d'argent à la Mostra des jeux de mots de Venise. C'est un mélange entre l'islam chiite et le bullshit. C'est un jeu de mots trilingue. C'est le seul en Europe. J'ai eu 9,84 du juge autrichien, notre technique. Donc, faut l'inviter.
Je donne une bonne note aussi en note artistique.
Faut l'inviter dans le face-à-face, oui. L'ambassadeur d'Iran. Face à vous, il fera moins le malin. Hein. Je reçois ce matin l'ambassadeur d'Iran, Mathilde Panot, bonjour.
Non, alors,
je suis Mohamed Amin Nejad. Madame, on se trompe dans ce dossier entre bourreau et victime. Tenez, hier, un manifestant a frappé un policier qui lui tirait dessus. Eh bien, le policier a eu très mal. Et la femme du policier, on y pense. Vous croyez que ça l'amuse de nettoyer le sang des manifestants sur son uniforme? À un moment, il faut parler des vraies victimes. Et tenez, pas plus tard que ce matin, en Iran, un lapin a tué un chasseur. Et c'était un lapin qui
avait un fusil.
Voilà, vous le saviez. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, vous le saviez. Toute ma jeunesse.
Vous êtes là, Arnaud. Donald Trump souhaite créer le Conseil de la paix pour concurrencer l'ONU.
Oui, son truc, on le voit d'ailleurs en ce moment, son truc à Donald Trump, c'est la paix. D'ailleurs, il veut envoyer des soldats armés au Groenland pour éviter que la Russie n'envoie des soldats armés au Groenland. Il va faire la guerre. Oui, mais pour éviter la guerre.
Ah,
c'est
voilà.
Pour la paix, c'est subtil. Donc il a monté son Conseil de la paix, dirigé par lui, son gendre, son secrétaire d'État, ses potes. Et pour en faire partie, il faut payer 1 milliard.
Ah ouais.
Donc il n'y aura pas beaucoup de pays africains, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est leur budget annuel pour tout. Et alors, dans les premiers membres, il y a Viktor Orban, Javier Milei. Il a proposé à Poutine, c'est l'ONU des méchants. Il va siéger au Conseil avec un chat blanc sur les genoux. Oh, nous devons tuer l'agent 007.
Mais je t'arrêterai, Donald, avec mes lunettes d'agent secret. Oh mon Dieu, Emmanuel Macron, le biker de la justice, le blouson noir de l'amour. Quel charisme depuis qu'il a les lunettes de Bébert des Forbans.
Alors Emmanuel Macron a refusé de faire partie du Conseil de la paix. Ça, Donald Trump, ça lui a pas plu. Il a dit 200% de droits de douane sur les vins et champagnes. C'est un forceur, hein. On dirait un vendeur de France Loisirs dans les années 90. Tout ça parce qu'il a pas eu le Nobel de la paix. Nous, il va nous attaquer si on lui remet pas une médaille, hein. Il faut que Macron l'appelle tout de suite. Allô, Donald, bonne nouvelle. Vous avez un Energy Music Award du meilleur album de K-pop. Oh, I love K-pop. I'm the best K-pop singer in the world. Whoopa Gangnam Style. Et c'est Jordan Bardella qui vous remet cet Energy Award.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Bah, Energy Award. Tout ça, c'est la faute de ces cons de Norvégiens qui n'ont pas voulu lui filer le Nobel. C'est alors qu'on s'en branle du Nobel de la paix. Qui se souvient du Nobel de la paix d'il y a 2 ans? Vous vous souvenez?
Non.
C'était Bachar al-Assad.
Non, c'est pas vrai.
Mais vous voyez, on s'en souvient pas. Hein. Alors en vrai, c'était Nihon Hidanko.
Ah oui.
Et à votre avis, c'était un homme ou une femme? Eh ben non, c'était une organisation. Vous voyez qu'on s'en fout. Autant lui donner. Allez, à demain.
Bravo. Mon Dieu, Arnaud Demange, tous les jours, 7h20, 8h20. Tout de suite, au 32-16, Jean-Olys qui vous appelle d'Arnouville dans le Val-d'Oise. Bonjour Jean-Olys.
Oui, allô, bonjour Pauline, bonjour à tous.
Bonjour à vous, vous vouliez réagir effectivement à ce rapport qui montre que le masculinisme, les discours assez rétrogrades sur les femmes fleurissent désormais et sont même une menace. Comment vous réagissez par rapport à ça, vous Jean-Olys?
Je trouve que c'est une absurdité de dire ça. Et puis, je réagissais par rapport à un invité, un auditeur qui disait que les femmes, en fait, cherchaient plus à dépasser les hommes.
Alors, il les voyait comme une forme de menace, les féministes.
Exactement.
Notamment.
Alors moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que les femmes ont très souvent été, leur action a été minimisée, elles ont toujours été mises en dessous de tout. Donc je pense qu'arrivé à un moment, elles vont forcément faire beaucoup d'efforts pour réussir à être au niveau, c'est pas qu'elles ne le sont pas, mais pour
prouver qu'elles le sont.
Considérées, voilà, pour prouver qu'elles sont, qu'elles méritent d'être à leur niveau. Donc forcément, vu qu'elles font énormément d'efforts, je me dis, ben forcément, ceux qui les voient agir vont forcément dire, ben elles en font trop, elles veulent nous dépasser. Non, c'est simplement que, arrivé un moment, effectivement, elles seront à bout de course et donc forcément, elles font énormément d'efforts pour
votre épouse, Jean-Olys, elle bosse, elle est au même niveau que vous?
Oui, elle est cadre dans une très grande entreprise et sincèrement parfois je vous avouerai que je suis même un petit peu jaloux, je trouve même que elle me dépasse largement, enfin c'est même pas que je trouve, elle me dépasse largement et parfois je m'agite beaucoup pour me faire remarquer d'elle.
j'aime beaucoup Jean-Olys, on sent vous êtes fier quand même.
Totalement, ouais. Oui. Totalement. Voilà. Et sincèrement, je voudrais rajouter ceci, c'est que pour moi, sans elle, comme je disais à votre collaborateur tout à l'heure, je me sens même totalement nu.
Eh ben voilà, on a besoin d'être deux, effectivement. Et c'est très bien quand on est à égalité et surtout complémentaire. Merci beaucoup, Jean-Olys, d'avoir réagi au 32-16. Il est 8h22. Dans un instant, mon invité, il est persona non grata, justement, aux États-Unis. Et il va essayer de nous expliquer comment faire avec Donald Trump. L'ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, Thierry Breton, est mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La France hausse le ton à quelques heures de l'arrivée de Donald Trump au Forum économique mondial de Davos, où il sera forcément question du Groenland que le président américain veut annexer. Paris réclame ce matin à l'OTAN de contribuer à l'exercice militaire européen déployé en fin de semaine dernière sur le territoire danois et se dit prêt à y contribuer. Au Parlement européen, un vote important aujourd'hui pour l'avenir de l'accord commercial avec le Mercosur. Les eurodéputés doivent décider s'ils saisissent la Cour de justice de l'Union européenne pour s'assurer de la validité du texte. Le vote s'annonce serré. En plein deuil national, une nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne après la collision de deux trains qui a fait 42 morts dimanche en Andalousie. C'est à Gélida, dans la région de Barcelone, qu'un nouvel accident a eu lieu hier soir. 4 personnes ont été grièvement blessées. Une autre, le conducteur probablement du train, est morte. Nouveau rebondissement dans l'affaire des laits infantiles Nestlé qui font l'objet d'un rappel massif dans une soixantaine de pays, dont la France. Une enquête judiciaire vient d'être ouverte après le décès d'un bébé qui a consommé ce lait.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie, l'ancien commissaire européen. Aujourd'hui, il est interdit de séjour aux États-Unis. Faut-il prendre Donald Trump au sérieux et comment lui résister? La réponse donc de Thierry Breton dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie également. Et vous êtes toujours interdit de territoire aux États-Unis?
Ben oui, c'est ce que j'ai appris effectivement le 24 décembre. J'ai compris que c'était parce que j'avais fait mon travail de commissaire européen. J'étais en charge du numérique, de proposer précisément des lois pour protéger nos enfants, vous savez, qui passent plus de 4 heures par jour sur ces réseaux, pour protéger nos concitoyens, pour protéger notre démocratie. Ces lois s'appellent le DSA. Elles ont été votées par plus de 90% des parlementaires, des députés européens, 100% des États membres. Mais comme je les ai portées, eh bien, et qu'elles ne plaisaient pas sans doute à certains géants de la tech, eh bien, j'ai compris que je ne pourrait plus aller aux États-Unis.
Vous avez été placé sur cette liste, effectivement, de personnes qui n'auront plus accès aux États-Unis, en tout cas pour un temps. Est-ce que vous avez pu avoir un échange direct avec Donald Trump?
Non, bien entendu, je n'ai pas eu d'échange direct, ni du reste avec personne.
Faites attention de toute façon, parce qu'ensuite il expose les SMS.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Ni avec personne de l'administration américaine, je n'ai pas l'intention du reste de me rendre aux États-Unis, donc je ne demanderai pas de visa. En revanche, Apolline de Malherbe, au-delà de mon cas personnel,
ce que ça dit aujourd'hui,
c'est évidemment une humiliation, une vassalisation de plus, un pas de plus vers cette maîtrise totale que souhaite du reste Donald Trump sur nous Européens. C'est ça ce que ça dit. Du reste, je tiens à le dire à votre micro, ce matin j'ai été au-delà de mon cas personnel bien entendu surpris par le nombre de personnes qui se sont manifestées, des milliers de personnes partout en Europe qui m'ont écrit, qui se sont manifestés pour me dire que, au fond, à travers cette sanction, c'était l'Europe et c'était eux qui se sentaient, au fond, humiliés, blessés. Et oui, une humiliation de plus. Alors ça va durer jusqu'à quand, cette humiliation?
C'est un peu la question que j'allais vous poser. Comment on répond aujourd'hui? Donald Trump, au moment où on se parle, est dans l'avion, en direction de l'Europe. Il vient lui-même, en personne, au Forum économique de Davos, où il s'exprimera dans l'après-midi. L'année dernière, il avait envoyé son vice-président, J.D. Vance. Dans un sens, ça veut dire que l'Europe compte à ses yeux. Il vient en personne s'adresser aux Européens tout à l'heure. Mais est-ce pour y mettre un pied de plus? Est-ce pour précisément nous vassaliser?
Apolline de Malherbe, ça fait désormais un an jour pour jour que Donald Trump, Trump 2, est au pouvoir. J'écris du reste ce matin dans Le Grand Continent mes appréciations, au fond, les leçons qu'on a apprises depuis un an. Parce qu'on a appris. on a appris finalement que ça ne s'arrêterait pas. On a appris que lorsqu'on donne un petit bout, on prend le doigt. Et puis quand on prend le doigt, on prend la main. Et quand on donne la main, c'est la moitié du corps qui part. On a appris. Donc il faut qu'on en tire les leçons. Bien sûr, nous sommes, nous, Européens, attachés à notre projet. Nous avons un projet de paix. Nous ne sommes pas belliqueux. Mais enfin quoi ? On sait que ça ne s'arrêtera pas. Donc il faut, d'une part, que nous en tirions les conséquences. Et c'est quoi les conséquences ? C'est que le monde d'hier, c'est fini. Les alliés d'hier, c'est fini. Il faut qu'on en soit conscient. Et je vais même vous dire plus. Nous, Européens, il faut que l'on comprenne que nous sommes seuls. Nous n'avons plus d'amis. Alors quoi ? On est quand même 450 millions. 450 millions de concitoyens. C'est pas rien, c'est une fois et demie, pardon, les États-Unis d'Amérique. Oui, nous, Européens, nous sommes une fois et demie plus importants que les États-Unis d'Amérique. Alors il faut désormais que nous prenions notre destin en main. Non pas encore une fois... De façon belliqueuse, je le redis, il faut évidemment résister, mais on sait que ça ne suffira pas. Et donc il faut lancer immédiatement un projet, moi j'y travaille, pour que dans les 5 ans qui viennent, je dis bien 5 ans, c'est un maximum, nous puissions avoir repris l'intégralité de notre destin en main.
Ça veut dire quoi l'intégralité de notre destin en main ? On va y venir, mais ça se joue aussi dans les heures qui viennent. On a l'impression qu'une escalade de propos, de mots, d'humiliation, comme vous dites, mais également de démonstration de force, ces tout derniers jours, est en route, avec effectivement une difficulté qui est, vous dites, on est seul. Mais faut-il acter que les États-Unis ne sont plus notre allié ? Faut-il même aller jusqu'à dire qu'ils sont désormais nos concurrents, voire nos ennemis ?
Écoutez, ça me semble une évidence. Vous avez lu, comme tout le monde, ce document sur la sécurité nationale qui a été, on le sait, donc proposé donc en novembre, à travers lequel, sur 33 pages, le gouvernement américain déclare désormais quelle est sa stratégie. Sa stratégie, c'est de mettre à bas, de mettre à mal, de détruire l'Union européenne. C'est écrit noir sur blanc. Bon, il faut qu'on en tire les conséquences. Donc, à votre réponse, bien entendu, nous avons vécu ça comme c'était, c'est-à-dire clairement, une déclaration d'hostilité par rapport à nos institutions. C'est une évidence. Nous sommes encore aujourd'hui, pour répondre très précisément à votre question, alliés dans le cadre, évidemment, de l'OTAN. Mais pour combien de temps ? Parce que si jamais... Du reste, je note, si vous permettez, qu'on voit que ça change beaucoup. Sur les 33 pages, pas un mot du Groenland. Donc si c'était aussi stratégique que ça, on se demande pourquoi ça a été oublié de le préciser.
Et on guettera évidemment chaque mot de voilà. Donald Trump aujourd'hui sur le Groenland. Est-ce qu'il s'agit en effet d'une forme de provocation ? Est-ce qu'il veut véritablement annexer, voire prendre le Groenland ? Il faut le prendre au sérieux ?
Ben oui, ce que je veux dire, c'est qu'on fait en novembre, les États-Unis, un document qui explique pour les 4 ans qui viennent la stratégie américaine. On oublie de parler du Groenland. On nous dit 2 mois après que le Groenland est tellement stratégique qu'il faut désormais l'envahir. Que c'est un peu compliqué à suivre. Je ferme la parenthèse. Mais donc pour nous, effectivement, si jamais il s'agissait d'attaquer, d'envahir, que sais-je, on ne sait même plus trouver les mots du reste, le Groenland, qui est un territoire européen, alors évidemment ce serait cette fois-ci la fin de l'Alliance Atlantique.
Pourquoi est-ce que Donald Trump veut affaiblir l'Union européenne ? Quel est son intérêt ? J'ai du mal encore à comprendre en quoi ça le renforce de nous affaiblir. N'est-il pas plus confortable pour lui d'avoir un allié dans ce monde particulièrement incertain ?
Eh bien, je crois qu'il faut, pour répondre à votre question, lire ce qui s'est passé depuis un an à l'aune de ce qui va structurer le monde. Le monde, dans les années qui viennent, y compris peut-être même pour la génération qui vient, c'est le choc frontal entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui va structurer le monde. Et donc, dans cette logique, tout ce qu'il fait, c'est pour se préparer à cette conflictualité. C'est-à-dire que...
Je raisonne peut-être de manière trop rationnelle, mais... Parce qu'il y aurait peut-être demain un choc avec la Chine, n'a-t-il pas intérêt à avoir quelques alliés ?
Eh bien, dans sa
plutôt
leçon,
vidé le reste du monde de sa puissance.
C'est une puissance impériale. Il fait des références du reste à l'Amérique impériale des années McKinley, des années, on le sait, autour du siècle, donc 1907. Il fait référence précisément à cette période. C'est son modèle. Et au fond, il nous considère comme quoi ? Je crois qu'il faut le dire, comme des vassaux. Qu'est-ce que font les vassaux à Pauline de Valherbe ? Eh bien, ils payent les guerres de l'Empire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu du reste, avec cet accord humiliant qui avait été signé par Ursula von der Leyen, on s'en souvient, en Écosse.
En juillet.
Et qui a été, heureusement...
Un accord commercial avec les États-Unis qui a donc été suspendu hier
par le Parlement européen, qui joue son rôle, enfin, et je crois qu'il faut vraiment le noter, c'est vraiment désormais la chambre de la résistance. Pour la première fois, le Parlement européen, hier, a dit stop. Stop à l'humiliation, stop à la vassalisation, stop au fait que nous sommes là uniquement pour payer précisément, ben quoi, les guerres de l'Empire, pour payer effectivement, aller financer précisément l'économie américaine, aller acheter alors qu'on n'en a pas besoin les hydrocarbures américains,
etc. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais enfin, Thierry Breton, pendant longtemps, c'est quand même les États-Unis qui ont payé nos guerres. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a trouvé bien confortable que les États-Unis, eux, fassent des dépenses en termes militaires et notamment leur participation à l'OTAN, qui nous permettait à nous de dépenser notre argent ailleurs.
Vous avez parfaitement raison, et en particulier pour 26 pays... Et pas le 27e, parce que le 27e rappelle
que c'est la France. Nous, on a pris notre part, oui.
Non seulement nous a pris notre part, mais nous sommes le seul, précisément, à avoir l'intégralité de l'architecture de défense. Mais pour beaucoup d'entre eux, on pense en particulier à l'Allemagne, mais pas que, effectivement, ils ont vécu sous le parapluie de défense, et voire également nucléaire, américain. Il n'en demeure pas moins que, comme on le sait, la contrepartie, c'est que les 26 ont acheté massivement de l'armement américain et que globalement cet accord il est évidemment gagnant d'un point de vue économique pour les États-Unis.
J'imagine quand même qu'un certain nombre de pays s'en mordent les doigts aujourd'hui, au premier rang le Danemark qui, lorsqu'il a dû choisir des modèles d'avions plutôt que de choisir nos modèles européens, avait systématiquement fait le choix des modèles américains, les fameux F-35, la Pologne avait fait pareil. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, évidemment il n'est plus temps forcément de se lamenter, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de naïveté, voire même d'ingratitude d'un certain nombre de pays vis-à-vis de leurs partenaires européens au profit des Américains, avec aujourd'hui évidemment les conséquences qu'on voit?
Vous avez raison, il faut relire cette histoire, et cette histoire elle est derrière nous. Et effectivement, pour la quasi-totalité des pays européens qui dépendaient intégralement ou quasi intégralement de la protection américaine, ils viennent de se rendre compte que Donald Trump et les États-Unis n'étaient plus un allié fiable, y compris dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN, et on le voit désormais, puisqu'un pays de l'OTAN peut être attaqué par un pays de l'OTAN. Donc, la contrepartie précisément de cette dépendance, c'était le fait que les Polonais, les Allemands, vous l'avez rappelé à l'instant, les Danois, achetaient américains. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Mette Frederiksen, qui est la première ministre danoise, bien sûr, elle a encore acheté des F-35, on espère que ce sont les derniers, parce qu'il fallait effectivement compenser cette flotte, mais, je tiens à le dire, parce qu'il faut lui rendre hommage et grâce, peut-être, sur ce point, elle a acheté non plus des missiles Patriot pour défendre son espace aérien, mais des missiles MBDA, qui sont franco-italiens. Donc, enfin, un tournant arrive. Et c'est ce que je veux dire, je voudrais, ce matin, à votre micro, en appeler au réveil. Bien sûr, il faut continuer à discuter avec les États-Unis. Bien sûr, nous ne serons pas agressifs. Bien sûr, il faut commencer à mettre des moyens de rétorsion. Mais c'est pas avec ça qu'on va inverser la tendance. On va inverser la tendance parce qu'il faut que nous nous réveillons, que nous prenions notre destin en main, et que oui, sur le chantier du numérique, sur le chantier de la défense, sur le chantier de l'énergie, sur le chantier également du dollar triomphant, il faut que nous inversions la tendance. C'est possible, on y travaille. Possible.
Comment, Thierry Breton, je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Effectivement, il y a à court terme cet outil qu'on appelle le bazooka, qui pourrait être une sorte de droit de douane inversé, si toutefois les menaces telles que Donald Trump, par exemple, encore il y a 48 heures, les a invoquées, l'idée de 200% de droit de douane, par exemple, sur le vin ou le champagne français. Alors, à court terme, on a les outils. Un, faut-il les activer? Deux, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il faut désormais, effectivement, relancer une forme de marché intérieur européen qui nous redonne une forme de puissance économique?
Bah, le relancer, c'est une évidence. Le poursuivre, l'accélérer, c'est une nécessité. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle, Apolline de Malherbe? Voilà donc que Donald Trump veut créer cette espèce de, on ne sait pas quoi, de board,
Conseil de la paix.
Donc personne ne comprend très bien ce que c'est. C'est un peu comme, vous savez, les charity dinners. Vous êtes invité et vous payez. Alors là, c'est un milliard
de tickets d'entrée.
Le président de la République dit qu'il n'en fera pas partie. Et on lui dit, parce qu'il dit tout simplement, moi je me sens pas à l'aise dans cette structure. On dit, ah tu te sens pas à l'aise? Eh ben tu vas prendre 200% de droits de douane sur le vin. Mais pardon, on est où? C'est ça le monde dans lequel on entre? Et on va continuer à laisser ça? Alors laissons parler, laissons dire, et nous avançons, et avançons ensemble, unis. Et c'est vraiment, je tiens à le dire, il faut bien entendu continuer à discuter devant ces aberrations erratiques, les prendre pour ce qu'elles sont, et peut-être aussi les prendre au sérieux, parce que ça peut aller effectivement jusque-là, on l'a déjà vu. Mais derrière, pour nous, il est temps de nous réveiller. Et je vais vous dire les choses très simplement. Ou bien on se réveille, Apolline de Malherbe, ou bien on sera totalement vassalisé et écrabouillé. entre ce choc dont je parlais tout à l'heure, entre les États-Unis et la Chine.
Vous avez
Il
dit,
est le temps du
travaille.
Réveil de l'Europe.
Vous avez dit, à l'instant, Thierry Breton, je l'ai noté, vous avez dit, il y a un projet pour qu'à 5 ans, on ait retrouvé notre puissance et notre souveraineté. J'y travaille. Vous y travaillez comment?
Eh bien, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. J'ai été extrêmement surpris du nombre de personnes qui se sont manifestées après ce qui m'est arrivé à titre personnel. Et donc, qui sont venus et on s'est mis à quelques-uns à travailler précisément, à proposer, pas pour nous, à proposer. Vous savez, vous avez entendu parler de ce rapport Draghi. Le rapport Draghi, il a été fait évidemment.
Il y a déjà 3 ans.
Il y a déjà 3 ans. Donc, on a voulu, on l'a pris. On s'est dit, il faut maintenant le remettre au goût du jour. Il faut prendre les chantiers les uns après les autres et dire comment on fait pour être autonome en matière de défense dans les 5 ans? Comment on fait pour pouvoir éventuellement se substituer si jamais on continue à nous faire des menaces dans l'espace informationnel? Comment on fait pour créer un réseau, enfin un réseau social qui soit européen et dont on puisse être sûr qu'il garantisse nos protections individuelles et la démocratie? Comment on fait pour être totalement autonome en matière énergétique sans plus être sensible aux oukases de Monsieur Trump? Donc tout ça, il y a des chantiers, ils sont là, on les a chiffrés, et je vais vous dire une chose, c'est faisable. Alors il faudra évidemment, bien entendu, les proposer.
Ce serait de nouvelles initiatives.
Mais bien entendu.
À 28, à 27, bien entendu, à 8,
au niveau européen.
Combien...
Mais vous savez, on va avoir un rendez-vous important parce que au mois de l'année prochaine, en 2027, donc nos institutions européennes, encore une fois, qui sont ce qu'elles sont, on sait qu'aujourd'hui elles sont vues.
Là, vous me parlez de 2027, elles... pardon, mais moi je suis incapable de me projeter en 2027. J'ai l'impression que le monde change au jour le
jour.
Vous
avez parfaitement raison. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut commencer tout de suite. Mais je voulais juste vous indiquer peut-être pour nos auditeurs ce matin qu'en 2027, nos institutions européennes, dont les observateurs estiment qu'elles sont très faibles aujourd'hui, ne vise personne, mais c'est une évidence.
Vous
partagez. Mais c'est une évidence. Mais regardez enfin ce qui se passe. Enfin, c'est une évidence malheureusement tous les jours. Ben, vous avez 2 des 3 institutions qui vont changer de présidence, le Parlement européen, parce que c'est des présidences tournantes, et le Conseil européen. Eh bien, il faut en profiter. Encore une fois, c'est pas les personnes qui sont là. Il faut peut-être aujourd'hui.
Oui, enfin, on peut quand même le dire aussi, Thierry Breton, vous aviez démissionné de votre poste, estimant d'ailleurs que la France n'avait pas tout à fait la place qu'elle méritait dans la nouvelle organisation de la Commission européenne. Et on peut pas dire, et je le dis régulièrement à ce micro, que votre successeur est une présence et une voix qui soit extrêmement entendue.
Eh bien, je pense que ceux qui sont en charge précisément aujourd'hui, et notamment le Parlement européen, doit se poser la question, est-ce que finalement les institutions européennes fonctionnent aujourd'hui dans leur structure?
Quitte à supprimer la Commission telle qu'elle est aujourd'hui?
Celle qui a été arrêtée en 2024, est-ce que le monde de 2024, c'est le monde de 2024? La réponse est non. Est-ce que nos institutions européennes sont adaptées? Vous venez de donner la réponse. Vraisemblablement, pas au monde qui vient. Ils ont encore une fois les moyens, s'ils le souhaitent. Je n'appelle encore une fois personne à la rébellion, mais j'appelle chacun à la responsabilité. Je le dis, ce qui se passe est trop important, trop grave, et vous avez raison sur un point, il faut aller vite. Est-ce que nos institutions permettent de répondre aux défis? Visiblement, la réponse est non.
Il y a la question économique, il y a la question militaire. Emmanuel Macron qui demande des exercices de l'OTAN au Groenland, mais avec évidemment cette ambiguïté qui est que l'un des principaux membres de l'OTAN, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Il faut quand même essayer d'organiser quelque chose.
Mais bien entendu, et pour une raison très simple, si jamais effectivement le Groenland, dont on découvre d'un seul coup, et je l'aurais dit tout à l'heure, alors que c'était pas prévu auparavant, elle devient un enjeu absolument géostratégique primordial. Eh bien, l'OTAN est là précisément pour le protéger. J'ajoute que Pauline de Malherbe, le Groenland est entouré de mers qui sont gelées 10 mois par an, et que pour protéger précisément le Groenland, bien sûr, il faut des avions, il faut des missiles, mais il faut des navires aussi et des brise-glaces. Les États-Unis, hélas, n'ont que 2 brise-glaces polaires. Nous en avons nous 10, la Russie 30. Si jamais, effectivement, les États-Unis souhaitent qu'on les aide, on est prêt à mettre nos brise-glaces à leur disposition dans le cadre de l'OTAN.
Donc, ils n'ont pas besoin d'annexer ou de récupérer le Groenland. Ils peuvent juste s'appuyer sur leurs alliés s'ils nous considéraient comme tels.
Parce que nous sommes, encore une fois, membres de l'OTAN et que précisément le Danemark.
On a l'impression d'être dans un discours de l'absurde.
Eh oui, eh bien voilà, c'est vous qui le dites, mais vous avez raison. On est dans un discours de l'absurde. Donc, pourquoi finalement, visiblement, les États-Unis, ou plutôt Donald Trump, veut-il tant le Groenland? Moi, je pense que c'est en référence précisément à cette période impériale à laquelle, dans laquelle nous parlions tout à l'heure, celle du président McKinley, 1896-1901. Il était impérial, il voulait accroître les États-Unis territoriales. Le Groenland, c'est 2,2 millions de kilomètres carrés. Moi, je pense que Donald Trump ferait d'un bon œil le fait qu'il a accru tout simplement
le territoire, en fait, la surface des États-Unis.
Je pense que malheureusement, il faut aussi aussi chercher des explications, disons, de la rationalité dans cette irrationalité, peut-être aussi profond précisément que ce les références que historiques
que ce ressort là,
je viens de faire référence.
Pendant ce temps-là, la France. Le 49.3, le budget, vous regardez ça en vous disant...
Comme les Français, on comprend plus très bien ce qu'il y a dans le budget, ce qui n'est pas, où on va, et on dit vivement qu'on passe à autre chose.
Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été mon invité ce matin. Ancien commissaire européen, je cite effectivement Le Grand Continent, cette revue dans laquelle vous signez aujourd'hui vos leçons de ces un an de Donald Trump au pouvoir. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Thierry Breton était mon invité ce matin et il est resté dans ce studio. Rebonjour Thierry Breton.
Bonjour.
L'ancien commissaire européen a entre autres parlé donc du Groenland de Donald Trump, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Et quelqu'un qui vous a bien connu veut rentrer et réagir. Angela Merkel est avec nous.
Bonjour Madame de Valère, bonjour à Thierry Breton, bonjour à tous les Français. Très poli toujours, je l'ai connu toujours. Très poulet, bien habillé. Bonjour à tous les fans aussi. Ah, j'ai écouté Thierry Breton, l'actualité, pas rigolo, hein.
Non, pas rigolo, non.
Mais heureusement, il y a Macron pour sauver l'Europe. Et le nouveau Tom Cruise, avec ses lunettes. Et oui, a fait entre Tom Cruise et Jacques Dutronc.
Oui.
Il lui chante en boucle à Trump. Tu es le plus grand des voleurs, mais t'es pas très gentleman. Oui, ça l'énerve, le Donald, ça l'énerve. Mais il est très beau, Macron, avec ses lunettes. Sexy. Moi, si j'avais 20 ans de moins... je souhaiterais j'aurais tenté quelque chose.
Ah oui.
Mais voilà, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Thierry Breton. Ah. Voilà. Et oui, c'est l'homme providentiel, c'est mon homme à moi. Mais pour la France, il a toutes les qualités. Je serai sa première dame. Il a toutes les qualités. Et il parle anglais couramment. Il est fort en économie, il connaît les chiffres. Et il a l'expérience, si. Il a les cheveux gris.
Oui, c'est vrai. C'est
vrai. Et il est authentique. Il fait pas teindre comme patapouf. Hein, non. Et, mais même si c'est vrai que pour le voyage de noces, on ne pourra pas partir aux États-Unis, il n'a pas le passeport. Mais c'est pas grave, on ira à Disneyland Paris et on fera un banquet au Buffalo Grill.
Voilà.
Et je sens qu'il se passe quelque chose. Thierry avec moi, il a su briser la glace. Oui. Et déjà, on a 15 brise-glace plus lui, ça fait 16 brise-glace en Europe.
Non, Donald Trump, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on arrêter Trump?
C'est bon, il va être arrêté, Trump. On a envoyé des soldats au Groenland. Et des soldats allemands, des commandos très sévères, très, très durs. Et à côté de ça, il y a les soldats français. Pour rigoler, de la 7e compagnie, au clair des lunes. Ah, j'ai glissé, chef. Et sinon, il y a une autre méthode. Puisque Trump, il va à Davos, en Suisse. Et on peut-être, pour arrêter Trump, lui présenter le prof de ski de Schumacher.
Oh non. Oh non.
C'est pas rigolo. Je me tape les perches dures. Oh, ça fait des vaguelettes. Comme on dit à Paris, fluctuat nec me perches dures.
Bon, merci en tout cas d'être passé. Ce matin, Thibaut Texer est avec nous pour les titres de l'actualité.
Oui, bonjour Apolline. Ici Thibaut Texer, le journaliste dont la voix est surnommée 49.3 parce qu'elle passe toujours en force. C'est parti pour les titres. Nouvelle crise ce matin à Davos après que le président du Portugal ait mangé la dernière part de crème caramel au buffet que convoitait Donald Trump. Celui-ci a menacé d'annexer Lisbonne et de kidnapper Cristiano Ronaldo. Face au nouvel impérialisme de Trump sur le Venezuela, le Canada, Cuba. C'est donc aujourd'hui autour du Groenland, la terre des pingouins, et cette question, qui va réussir à arrêter la marche de l'empereur? Et puis, retour en France. Sébastien Lecornu a donc choisi de se renier et d'avoir finalement recours au 49.3 et c'est Nagui,
Nagui
qui souhaitait réagir.
Bonjour Nagui.
Oui, ça,
Salut à tous, bienvenue dans mon émission. N'oubliez pas les paroles. Et c'est Sébastien, notre candidat qui était pourtant bien parti, qui vient d'échouer en dernière semaine puisqu'il a oublié sa parole. Humour, deuxième degré. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour lui avec le risque de censure. Il se qualifie d'office pour mon autre émission. Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. Salut, bye bye. Ciao à tous.
Ciao. Merci, Nagui. Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Aïe, aïe, aïe. Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour à Pauline, bonjour à Thierry Breton qui est venu nous rejoindre dans ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Apolline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du pape, du peuple, pardonnez-moi, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, il ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite, en régie, appeler ce monsieur voilà. Trump, on compose le numéro en régie.
Hello.
Oui, monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet, désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent, il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre.
Ok, c'est pas grave, si je peux pas l'acheter, alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela, non. Et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. Du 200%.
Non, écoutez, attendez, monsieur Trump, ne faites pas ça, monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, qui est un certain monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir.
Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je connais bien, c'est un chic type, le Tom oui. Cruise, Marc Repère. C'est pas grave s'il ne veut plus me vendre. Alors, je me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lando. Et vous, de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google.
Non, écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas
Fresh
de vous.
News, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Courbet, Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même.
Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump. Mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous, parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois.
Tous les jours, on vous retrouve donc demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Merci à Thierry Breton d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain ?
Eh bien, dans les GG, nous serons avec le cheminot Bruno Poncé, avec le conseiller Antoine Diers. Nous serons avec la prof de français Fatima Aïd-Boudouin et on accueille la ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Voilà, restez avec les GG, c'est de 9h à midi. On vous attend au 32-16.